Je voudrais vous remercier vraiment de vous déplacer à l'université un lundi matin.
Mais je vais vous dire, moi en tant que donc directeur artistique du festival, donc je suis Christian Makota, quelques mots de mise en contexte de cette présence de Pierre Libart, qu'on connaît depuis un certain temps, puisque il a été, dès sa sortie de l'école de photographie dont il est issu à Bruxelles, il a été exposé chez nous, et non seulement exposé, mais primé à deux reprises. Et donc c'était important pour nous aussi de continuer à garder le contact avec lui, à un moment où sa carrière a beaucoup avancé et reconnu dans beaucoup d'endroits. Et donc voilà, pour nous, c'est pour vous dire que cette collaboration avec Pierre, elle n'est pas par hasard, quoi. Hein. Ça fait partie d'un travail sur la longue durée, puisque son premier prix, c'était en 2012, et que depuis, il a fait plein d'autres choses. Et que,
7 ans.
Voilà. Il sortait de l'école, pas primaire, mais du 75,
ouais. Hein,
c'est cette grande école de photographie belge, bruxelloise. Voilà, donc pour parler un peu de ce lien avec Pierre, donc ce festival, comment il fonctionne très vite, il a été fondé en 2001 dans le quartier Boutonnet, ce qui explique cette appellation un peu étrange pour les non-montpelliérains, peut-être, hein, les boutographies. Pourquoi les boutographies? Parce qu'au départ, ça a été une toute petite initiative de quelques personnes. Ça a duré 3 jours, c'était dans la rue principale de Boutonnet. On accrochait les photos au pressing, peut-être que...
Je m'en rappelle, moi, j'étais étudiante.
Voilà, donc c'était quelque chose de très, très artisanal. Et puis, au fil des années, maintenant, on est au pavillon populaire. Donc là, la ville nous a cédé pendant un mois le lieu de la photo à Montpellier. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, les Montpelliérains, j'imagine, le connaissent. Donc c'est un lieu qui est voué toute l'année à la photo. Nous, on bénéficie d'un créneau de programmation d'un mois. Le reste du temps, c'est Gilles Morat qui est le commissaire des autres expos, dont celle qui va ouvrir mercredi, là. Et nous, on vient juste après. Voilà. Donc le principe, c'est de faire un appel à candidature européen. On reçoit 500, 600 dossiers. Et parmi ces dossiers, on en sélectionne 8 pour accrochage, 8, 9, et 15 pour projection. Voilà, c'est le panel de photographes qu'on monte. Il y a aussi un hors les murs. Bon, on a un public entre 15 et 20 000 personnes annuelles, donc ça a pris une certaine ampleur. Et puis depuis 2 ans, on a mis en place ce principe d'une carte blanche, donc où là, c'est quelqu'un qui ne passe pas par la sélection, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, et qu'on invite, donc à qui on donne un espace particulier. Et c'est de ce travail qui sera présenté donc au mois de mai, au pavillon populaire, avec les autres, mais qui a une place quand même particulière, c'est de ce travail dont Pierre va vous parler, et puis de ce qui l'a précédé aussi, je crois.
Ouais.
On va dire comme ça.
Voilà. Voilà. Donc, dans cette offre photographique, on a toutes sortes de choses, hein. Nous, on est sur un champ photo qui n'est pas celui du photojournalisme. On est plus proche en termes de programmation, mais toute proportion gardée, de ce qui est fait à Arles, c'est-à-dire quelque chose d'assez éclectique, et qui laisse une place à des formes parfois expérimentales, souvent très personnelles. C'est vraiment des démarches d'auteur, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Donc, c'est pourquoi on présente uniquement des séries aussi, d'ailleurs, et de plus en plus des installations, des choses qui sont scénographiées, souvent. On a d'ailleurs beaucoup de photographes qui sont passés par des cursus artistiques au sens élargi, hein, c'est le cas de Pierre aussi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas strictement photographes, pour qui la photo est un élément, parfois parmi d'autres, mais qui reste central quand même. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces propositions que vous pourrez voir au mois de mai, qui seront en ligne un peu avant. Et ce matin, vous allez pouvoir découvrir donc les images que réalise Pierre. Juste un mot sur la connexion poésie-photographie, qui est un peu la spécificité de cette année, pour plusieurs raisons, parce que Pierre il a une connexion avec ce type d'approche, de démarche. Son expo, elle porte le titre d'un poème de Rainer Maria Rilke. Et puis c'est vrai que c'est le monde de la photo et le monde de la poésie ont quand même beaucoup à voir entre eux depuis le début, hein. On sait le mal que Baudelaire a dit de la photo, mais quand on lit ses poèmes, on se rend compte que c'est quasiment photographique. Sa façon d'écrire la poésie est quasiment photographique. On sait bon, tous les liens qu'il y a avec, entre des gens comme, par exemple, Bonnefoy et Mallarmé. Bonnefoy, qui est un poète qui s'est beaucoup intéressé à Cartier-Bresson, qui est un photographe, mais aussi à Mallarmé, chez qui il a vu aussi de la photographie. Et puis, on peut faire un petit détour aussi sur ce cheminement poésie, photographie et aussi rock'n'roll par Patti Smith, qui est au départ poète, hein, avant d'être une rockeuse, mais qui est aussi photographe, et qui est dans cette relation très très forte avec Rimbaud. Mais juste pour dire que sort actuellement chez vous, sorti il y a quelques semaines, quelques mois, chez Gallimard, un livre sur une saison en enfer qui est avec Patti Smith, les photos de Patti Smith, des textes de Patti Smith, et en couverture, une image qui a été réalisée par Pierre Libard. Voilà, pour boucler la boucle. Où on voit Patti Smith avec le fameux revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud. Voilà, il se trouve que Pierre a pu faire cette image, qui évidemment ça a intéressé Gallimard. Voilà, pour montrer un peu toutes ces connexions qui nous amènent sur la photographie et la poésie, et un peu le rock'n'roll aussi. Voilà, je te laisse la place.
Alors, comme Christian l'a dit, j'ai été deux travaux ont été présentés, deux projets ont été présentés au Boutographie en 2012 et en 2016. Le premier s'appelle Maquenoise. Maquenoise, c'est un petit village en Belgique. C'est un travail d'école. C'est vraiment une série, finalement la première série photographique qui m'a retenu. C'est en ouvrant un atlas belge et en pointant mon doigt sur un endroit tout à fait fortuit que j'ai décidé de me rendre donc dans l'endroit ciblé. Cet endroit s'appelle Maquenoise. C'est un petit lieu qui est situé à la frontière belgo-française, c'est un point frontière, une douane. Et j'y ai fait la rencontre de ce que je pourrais appeler un couple. C'est une mère et son fils. Le fils avait une quarantaine d'années. Et ont toujours vécu, en tout cas de l'extérieur, en les fréquentant. Et j'avais cette sensation qu'ils avaient traversé déjà l'existence ensemble. Ils vivent dans une toute petite ferme, vraiment lovée, au bord, à l'orée d'un bois. Et ça a été pour moi l'occasion de découvrir. Alors, je ne viens pas du tout d'une famille ni d'éleveurs ni d'agriculteurs, mais ça m'a donné la possibilité de dresser une sorte de théâtre un peu noir. En tout cas, quelque chose. La photographie m'a très rapidement semblé pouvoir peut-être distordre le réel. De l'amener ailleurs que ce qu'il me montrait exactement. Et donc, pour moi, ça a donné l'occasion, en fait, de voir la ferme comme très rapidement l'endroit où se cristallisait l'idée d'un cycle et de deux énergies tout à fait antagonistes. Donc, quelque chose qui est de l'ordre, en fait, de la naissance, du renouvellement du troupeau, du petit bétail et finalement sa fragilité, sa mort, vous allez le voir plus tard, mais son utilisation, en tout cas son abattage. Donc il y a quelque chose à la ferme qui est en même temps de l'ordre d'une très très grande cruauté ou crudité, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre d'une quotidienneté, d'un domestique. Et je pense que c'est cette cohabitation finalement de l'horreur mais aussi d'une forme de banalité qui moi m'a beaucoup touché, en tout cas à cet endroit là et donc moi je dis souvent que le premier travail que l'on fait vraiment sans trop réfléchir, parce que finalement c'est quelque chose d'assez instinctif, ici c'est un travail qui a été réalisé avec ce qu'on appelle un moyen format, donc c'est un appareil. Ici, c'est un Rolleicord, donc c'est un appareil avec deux objectifs. Et c'est un appareil qui se pose en fait sur le ventre pour finalement rétablir une vue. Vous pourrez voir, si vous tapez Rolleicord, en fait, c'est un appareil bi-objectif. Et la mise au point se fait sur ce qu'on appelle un verre dépoli. Donc l'objectif supérieur est celui qui nous permet de viser, l'objectif inférieur est celui qui est directement en lien avec la surface photosensible qu'est la pellicule. Et donc en fait c'est un appareil qui se tient ici et dont la mise au point se fait sur le côté. Donc finalement le visage est toujours dégagé. Donc on n'est pas du tout dans un rapport d'appareil masque qui, qui localiserait immédiatement je suis en train de faire une photo. Et donc c'est un appareil qui peut très bien se poser sur une table, sur un meuble, et donc qui, entre guillemets, modifie. Et j'aime assez bien, moi je suis convaincu qu'en fait un outil modifie notre rapport à l'espace. Et donc c'est pour ça que, en fait, dans tous mes projets, il n'y a aucune récurrence de matériel, aucune récurrence même de traitement, parce qu'en fait l'outil va m'amener à déplacer, à mon avis, mon corps face au sujet. Et donc c'est un regard, finalement, quand on regarde le lit, c'est un regard finalement assez rasant, et c'est quelque chose qui est assez reconnaissable ici dans cette série. C'est un petit extrait, hein, que je vous montre. Et donc, ben, moi, je peux pas dissocier la prise de vue d'un moment, la sensation de me sentir entouré, quasi prisonnier, aliéné par le sujet ou par les contraintes qu'il me donne. Je n'ai toujours travaillé qu'avec des contraintes, qu'elles soient des contraintes de lieu, des contraintes de temps, des contraintes de sujet. J'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose, en fait, que j'aime dans l'obsession, dans le fait, je pense que ça doit être très, enfin, ça doit me rassurer, en fait, même si finalement ça c'est très inconfortable, parce qu'il y a là comment se justifier vis-à-vis de ce sujet, comment justifier sa présence, comment justifier la place de la photographie dans un endroit qui est tout sauf photographiable pour la plupart de nous. Donc je trouve que c'est des sujets que la photographie, que la présence de la photographie amène à révéler, à dévoiler. Qu'est-ce qui est photographiable? Pourquoi le montrer? Pourquoi cet appareil est braqué sur moi? Que racontes-tu de nous? Enfin, voilà, pour moi, c'est des questions qui s'apparentent finalement à un vertige relationnel. Hein. Enfin, voilà. Et donc c'est l'occasion de revenir sur la question du cycle, la question de l'entrelacs permanent, du beau, du laid, de la vie, de la mort, d'une forme d'éternité, mais aussi de passager. Et finalement, j'avais une super relation avec eux. Hein. Le fils, m'a considéré vraiment comme son frère. Et je pense qu'il y avait... C'est bizarre, en fait, comme c'est très fragile ce qui nous tient, ou ce qui nous tient dans ces moments-là. Est-ce que c'est l'appareil photo? Est-ce que c'est ce qu'on dit? Pour moi, c'est toujours un mystère. Hein. Je ne comprends pas. Et je pense que c'est... Voilà. Je pense que la photographie a du mystère à cet endroit-là. Et c'est... En même temps, j'adore m'en approcher. En même temps, j'aime bien maintenir ça à distance parce que je trouve ça très beau de le laisser intact. Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous avez des questions, des choses, si vous voulez m'interrompre. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Quoi. Ouais.
Moi, je me demande comment tu... Justement, sur cette rencontre et tout ça, comment tu... Entre le moment où tu décides d'aller dans ce village où apparemment tu n'en sais rien du tout.
J'en sais rien.
Et comment tu tombes sur ces gens? Comment tu te mets à créer cette relation? Est-ce que tu leur présentes que tu es photographe, que tu aimerais? Comment se passe ce moment-là?
Y a avant tout une prospection, une possibilité lorsque tu n'as rien, je pense. En fait, bizarrement, le dépouillement amène une grande porosité. J'ai cette sensation, en fait, que quand tu enlèves tout, il y a un désir de se raccrocher, ou en tout cas un instinct de se raccrocher à ce que tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une plus grande disponibilité au désir, en fait. Enfin, il y a la phrase d'un poète belge, Fernand Dumont, qui à Bruxelles, était très amoureux d'une femme, et à Bruxelles, il voit passer dans un tram une femme dont il tombe éperdument amoureux. Et il ne comprend pas pourquoi il retombe amoureux. Pour lui, il le dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que du désir. Et je pense profondément, en fait, que quand tu te mets en disposition de dépouillement ou d'accueil ou d'ouverture, en fait, il y a des choses qui arrivent. Mais en fait, ces choses sont tout le temps là. C'est juste que tu ouvres ton spectre, mais ces choses rentrent dedans, parce que simplement, tu es plus aux aguets, tu es plus disponible, tu es plus là. Et je pense que là, en fait, c'est en me baladant que j'ai dû voir une... Je me souviens, j'ai vu une silhouette, j'ai vu un paysan, et donc je me suis rapproché. Et puis, en fait, là, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre de la relation. Ça passe, ça passe pas. Il y a une entente mutuelle, il y a une curiosité mutuelle. Et puis, bon, voilà, est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux planter ma tente? Et puis, de la tente, ça rentre à la maison du repas, ça devient, si tu veux, on a un lit à l'étage, et puis ce truc prend de l'épaisseur, mais comme dans n'importe quelle relation, en fait. Cette chose s'épaissit, et finalement, tu te retrouves à regarder la télé avec eux, quoi. Et tu te dis, attends, parce que ça, finalement, j'étais 10 minutes avant dans le même état, hein. C'est finalement un repas et copieux et arrosé qui nous amène à ce moment-là. La maison, il n'y a qu'une seule pièce chauffée dans la maison. Donc il y a quelque chose de l'ordre du huis clos qui parfois était très très étrange. Mais j'avoue, hein, c'est très. Enfin, je pense qu'il faut. Ça, c'est le mythe d'Orphée et Eurydice. Hein. Tout le monde voit le mythe. Eurydice qui est coincée aux enfers, Orphée a l'autorisation d'aller la chercher. Mais il lui est fait comme recommandation de faire sortir Eurydice, mais de ne jamais la regarder, de ne jamais rétablir ce contact oculaire, quoi. Et donc, ils sortent, Eurydice est dans le dos d'Orphée, et c'est finalement, lorsque Orphée sort des enfers, c'est la bouche des enfers, il se retourne pour aider Eurydice à sortir du trou, mais évidemment, elle est encore dans les enfers, et elle est emportée à jamais aux enfers. Et je trouve que ça parle vraiment, pour moi, de l'acte de création, c'est-à-dire regarder avant, regarder après, mais jamais pendant, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du vertige.
Et combien de temps tu restes avec cette amie ?
Alors, ça peut être du 3 jours, une semaine, deux semaines, j'étais pendant les vacances, parce que j'aidais, en fait, aussi. Il y a un moment où, en fait, cette présence est étrange, et donc... Exact, tout à fait, ouais. Mais en règle générale, c'est vrai que c'est des projets à long cours. Et aussi, j'ai besoin de m'installer, j'ai besoin de me sentir accepté, de me sentir accueilli, de me sentir reçu. Sans quoi, si je sens la moindre hostilité envers moi, ça c'est pas possible, en fait.
Et pour qui sont ces photos ? À qui elles s'adressent ?
À qui elles s'adressent ? Oh. Alors, sûrement pas à eux. Je leur ai montré. C'est pas une incompréhension, mais c'est une... la conscience, en fait, que le réel est distordu, qu'il est quasi travesti, en fait, et que par la sélection d'images, une autre histoire est racontée. Et ça, c'est toujours quelque chose sur laquelle j'insiste, c'est que je ne montre pas ce qu'ils vivent. C'est là où finalement on n'est pas dans la catégorie du reportage ou de l'illustration. Finalement, il y a quelque chose, il y a un entre-là entre eux et moi. Donc, à qui s'adresse ce travail ? Il a surtout été, bon, il a été publié, il a été montré en musée. C'est souvent, exclusivement en festival. C'est ces catégories-là. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, dans la catégorie du documentaire d'auteur. Et donc, on est dans une frange plutôt plastique de la photographie, sans pour autant se distancer d'un trivial. En fait, j'ai besoin du réel. Moi, c'est ce qui profondément me manque. J'ai besoin d'être surpris par lui. En fait, pour moi, tout est là. Tout est là. Il y a juste sa posture, la posture à avoir. Mais, enfin, vous allez voir, et parce que je trouve ça intéressant de vous montrer ça, et puis l'autre travail qui a été montré en 2016.
Il y a eu un débouché de livre aussi.
Oui, oui, tout à fait.
En fait, ça a été quasi systématique.
Systématique, oui. Travail livre ou film, c'est souvent le cas. Donc ça, c'est une image d'archive que j'ai retrouvée.
Livre, c'est-à-dire tu écris à côté de la photo ?
Non, c'est un livre de photographie. C'est un livre d'auteur de photographie. J'ai peut-être, en fait, une captation vidéo du livre. Parce que pour moi, le livre devient... Et c'est aussi des cours que je donne, c'est que le livre, pour moi, a une... comme il est tactile, comme c'est un objet sensible, il est l'endroit d'une compréhension quasi subliminale. En fait, le livre, c'est quelque chose qu'on tient dans nos mains. Est-ce qu'il est souple ? Est-ce qu'il est rigide ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est épais ? Quel bruit font les pages ? Quelle odeur a-t-il ? Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une compréhension physique, en fait, du sujet. Et qu'un livre n'est pas simplement un support, mais un vecteur. C'est déjà un vecteur, c'est un objet. Et en ce sens, en fait, il pénètre déjà, en fait, par nos sens. Et nos sens, la sensation, et pour moi, la sensation, c'est le début, en fait, d'une émotion. Et l'émotion qui amène, en fait, à une compréhension, à une un regard. En fait, le livre, pour moi, modifie déjà notre regard sur le travail. Et il l'amène. Et donc, pour moi, c'est tout un enjeu. Le livre n'est pas simplement support aux images, il est quasi sculptural. Pour moi, il y a de l'ordre de la sculpture dans le livre.
Ouais, c'est des livres-objets, en fait. Hein. Oui. Ils sont très travaillés dans leur forme, qui sont souvent très, très spécifiques.
Alors, libre maintenant. Mais en fait, je trouve ça important de vous montrer ça, parce qu'un travail comme le travail précédent, qui est un travail très instinctif, j'avais quoi ? J'ai commencé à travailler à 18 ans. Je connaissais rien. Je connaissais rien à la photographie, par exemple. C'est-à-dire que les références sont venues par après. C'est un travail surtout, en fait, avec les professeurs, mais qui est, en fait, d'une confiance absolue. D'ailleurs, je les remercie, j'espère qu'ils m'entendent. Parce qu'il y a une confiance absolue dans des personnes qui arrivent déjà, en fait, à travers des planches contact, à aller chercher et l'image qui dit du sujet et l'image qui dit du photographe. Et qui, en les assemblant, commence petit à petit à dresser, à tisser des liens sensibles, des liens narratifs, mais en fait, qui participent d'un dévoilement du photographe. Ça, je trouve ça fascinant, mais il y a une confiance absolue, et tout ça a été très, très, très instinctif. Mais je pense que ça dit tout. En fait, j'ai presque l'impression que je devrais m'arrêter, parce que ça dit tout. En fait, il y a dans ce premier travail, dans ces premiers jets, il y a toutes les questions que je me pose encore aujourd'hui. La question de l'aliénation à son territoire, à son environnement, la question du cycle, la question de la prise avec le temps, la question de l'animal, la place de l'animal, la place de la cruauté, de la violence inhérente, en fait, à la relation aux animaux, mais aussi à la relation entre êtres humains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, enfin, pour moi, en fait, pour moi, tout est là. Et même photographiquement, c'est quasi un manifeste que je me faisais très, très intuitivement de la place que j'aimerais que désormais j'allais prendre face au sujet, une place de quasi frontale, sans concession, sur la longue durée. Enfin voilà, pour moi, tout y est. Donc dans le travail libre maintenant, c'est vraiment c'est quasi un protocole. Encore une fois, là, le sujet a quasi décidé à ma place, un peu comme dans cette famille où, finalement, la disposition de lieu, il fallait 4 heures depuis Bruxelles pour y aller en transport en commun. Ici, c'est une annonce que j'ai passée dans les journaux, sur des sites, pour proposer des séances de nu. Je n'ai reçu, en fait, que des réponses d'hommes, qui avaient toutes une sorte de même urgence et de même impatience, c'est de se montrer nu devant moi. C'est un tout autre sujet.
Deuxième travail, primé aussi par le Grand Prix au boutographie, donc 4 ans plus tard.
Voilà, qui a donné lieu à un film. Donc le film était montré aussi dans le dispositif d'exposition, ce que je n'avais pas du tout fait avec ma quenoise, qui était un travail tout à fait linéaire, du tirage, de l'encadrement. Mais ici, libre maintenant. Alors libre maintenant, et vous le comprendrez à la fin, ça aussi un petit extrait. En fait, tout ce dont je vous parle, le film, tout ça, tout est présent sur mon site internet. C'est vraiment, il n'y a pas d'accès privilégié au film. C'est un court métrage qui entremêle en même temps des captations dans les hôtels. Petit aparté, en fait, toutes ces rencontres ont eu lieu dans des hôtels de passe à Bruxelles, parce que finalement, cette séance ne pouvait ni avoir lieu chez moi, ni avoir lieu chez eux, parce que pour la plupart, c'est des hommes mariés, qui ont des enfants, qui ont des vies, enfin, une socialité tout à fait classique. Et en fait, je ferme cette parenthèse, donc dans le film, il y a cet entre-là de témoignages, de captations dans les chambres de ces rencontres, avec des personnes qui, je trouve, avaient une conscience d'eux-mêmes, une conscience de leur place, une conscience de leur désir, les photographies et une bande-son. Donc il y a vraiment un entre-là de tout ça. Dans l'exposition, il y a aussi des reproductions d'entretien, parce que tout s'est produit par mail. J'ai reçu, je pense, j'ai pas encore fait le calcul, mais donc je pense que j'ai échangé avec environ 200 à 250 hommes par mail. Ça m'a pris 3 à 4 ans. Je pense que les mails, enfin, ce travail épistolaire prenait la place des meubles chez moi. C'était énorme. Tous les soirs, j'étais là comme ça, à répondre de manière tout à fait, personnelle. Donc, il n'y avait aucun copier-coller de trucs. Parce que je trouvais, en fait, qu'il y avait une telle exposition de soi une telle exposition de ses désirs, un tel besoin, qui était pour moi très fragile, en fait. Il y avait beaucoup de fragilité, je trouve, que je me devais de garder, en fait, de garder très attentivement ces échanges et cette parole qui était pour moi quelque chose qui était de l'ordre de la libération. D'où le titre « Libre maintenant ». Libre maintenant, pour moi, dans le maintenant et dans le libre, c'est est-ce que je suis libéré maintenant ou bien est-ce que, en fait, libre maintenant, c'est vraiment un mail que j'ai reçu, une sorte de truc, à mon avis, qui me parlait de l'urgence, de l'envie immédiate. Je suis libre maintenant. c'était maintenant ou jamais. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre d'une sorte d'immédiateté qui devait être saisie maintenant. Donc, ce titre, est-ce que c'est libéré? Est-ce que, finalement, je suis enfin libre? Ou est-ce que je suis libre maintenant? C'est-à-dire, j'ai une courte marge de manœuvre et c'est maintenant, c'est une brèche dans laquelle tu dois venir avec moi. Voilà, pour moi, il y a de l'ordre, en fait. Qu'est-ce qu'il y a?
J'imagine le mail, genre, j'ai 30 secondes.
Mais c'était souvent une heure, tu vois, sur la pause de midi. Mais j'ai reçu aussi plein de mails qui disaient, je ne peux pas venir, j'ai eu un accident de voiture. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de choses. Ça dépendait, donc les relations épistolaires, c'était parfois très brutal et parfois ça devait, en fait, il y avait une sorte, je devais installer une sorte de conviction, montrer pas de manche, enfin, il y a quelque chose. Donc j'avais vraiment le rôle du photographe, j'arrivais avec mon appareil photo autour du cou, avec mon trépied, les chambres d'hôtel étaient louées, c'était toujours, en fait, c'était très théâtral, parce que c'était unité de temps, unité de lieu, unité de sujet. Je travaillais avec un appareil assez volumineux, au flash, et avec de la pellicule. J'avais 5 films, donc j'avais 50 images. Donc c'était une manière aussi de limiter, enfin de pas déborder, de me dire je dois construire, encore une fois, par la contrainte, trouver une porte d'élévation. Et donc c'est tout ce protocole qui finalement m'a amené à obtenir des images. Le fait que ce ne soit ni dans un studio, ni chez eux, mais dans une chambre, que eux-mêmes souhaitant être anonymes ou garder l'anonymat, on est d'accord que c'est relatif, mais en fait, c'est eux qui jouent avec ce que j'appelle une limite. Cette limite, en fait, je remarque que c'est aussi, en fait, une donnée qui traverse tout mon travail et toutes mes questions, cette question de la limite, la question sur le travail précédent, de se dire, mais qu'est-ce que tu fous là? La limite relationnelle, la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intimité et l'impudeur, c'est des choses, moi, qui m'intéressent énormément. Je pense que venant de Belgique, moi, je me suis nourri au documentaire Striptease. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je pense que ça a dû profondément marquer des films comme C'est arrivé près de chez vous. Je pense que toute cette question de la limite, de l'équilibrisme, qui est vraiment propre à Striptease, en fait. On est dans le rire et les larmes, entre justement le touchant, donc l'attendrissant et l'impudique. Tout ça, moi, ça m'intéresse profondément. Et donc, pour moi, ce masque est clairement joue avec la limite d'une volonté et de se cacher et de se montrer. Il s'agit aussi d'un... ça, c'est l'anecdote, mais il s'agit d'un bas de sa femme. Donc, tout ça rajoute, en fait, des couches et des couches, moi, qui me fascinent. En plus, ce bas donne l'impression, en fait, que la tête ne va pas avec le corps.
Et dans le mail de départ, c'était pas une demande spécifique en direction des hommes?
Pas du tout.
Et aucune femme n'a
répondu? J'ai reçu deux mails de femmes. C'était des prostituées. C'était des prostituées qui voulaient un book. Donc qui ont vu la photographie comme une possibilité, en fait, de construire, en fait,
ça aurait pu être
exact, film, c'était pro, quoi. Mm-hmm. C'était vraiment pro. Je l'ai fait parce que je trouvais ça intéressant, mais ça rentrait pas du tout dans le propos, projet, en fait, pas du tout.
C'est intéressant quand même sociologiquement qu'il n'y ait pas de femme.
Ah oui, oui. Alors est-ce que parce que je me présentais parce que j'étais un homme aussi, il y a quelque chose.
Les femmes se sont tellement prêtées à être des modèles.
À l'exercice, ouais.
À l'exercice. Tout à fait. Je sais pas, enfin, qu'il y a un passif qui est pas du tout le même.
Exact. Oui, oui. Peut-être qu'il y a, il y a effectivement socialement quelque chose qui est beaucoup plus toléré de la femme photographiée, de la femme objectifiée. Enfin, dans la photographie, c'est terrible, en fait. Et même dans le secteur publicitaire, de la mode, c'est vraiment c'est le support, quoi. Alors que l'homme, je pense que ces séances sont devenues, et c'est là finalement où je vais glisser vers le travail en cours, c'est que finalement ces espaces deviennent des espaces et de transgression, mais de libération. C'est-à-dire que réellement, en fait, il y a un espace qui socialement est interdit, puisque finalement, ils sont ils vont à l'opposé de ce qu'ils sont, à l'antithèse de ce qu'ils sont, Donc il y a un espace qui est limité par le temps, et vous verrez en quoi ça a son importance sur le travail qui vient. Donc un travail sur le temps, le travail du masque, donc de l'anonymat, et qu'est-ce que cette disposition d'être dans un nouvel espace, donc un espace qui est hors de la société, avec le masque, dans cette nudité, entre guillemets. Donc pour moi, on est dans la question de l'âge d'or, du jardin d'Éden. Pour moi, toutes ces images sont convoquées. Qu'est-ce qui fait que ça participe et d'une nudité, donc d'un délestement de soi, et d'une transfiguration. Pour moi, on est dans cette image-là, pour moi, on est dans quelque chose de l'or quasi christique, quoi. On est dans un linceul, il est là, offert, ses yeux sont mi-clos, enfin, en même temps, on est d'accord, il a la gueule transformée, mais pour moi, là, on est dans quelque chose, après, je vais beaucoup plus loin dans la lecture d'images, mais pour moi, les plis de l'oreiller me font penser à une auréole, ou en tout cas, quelque chose qui est de l'or de la couronne d'épines, enfin, voilà. Il y a quelque chose, pour moi, de funéraire, quasi, en fait, hein. Et qu'on retrouve...
Est-ce que c'est eux, pardon, qui choisissent la mise en scène, ou est-ce que...
Ben, indirectement, mais on va dire que ces chambres sont quand même très petites, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Alors, il n'y a pas grand chose à faire dans une chambre, le lit est quand même très présent, et je pense que dans l'histoire de l'art, le lit est quand même un sacré espace, hein. Un sacré, enfin, c'est pas un jeu de mots, hein. Mais un espace sacré, et un espace qui est quand même déployé sous toutes ses formes. Le lit, pour moi, c'est l'espace de la maladie, l'espace de la mort, l'espace du sexe, l'espace de la tristesse. C'est vraiment un espace assez incroyable, le lit. Hein. Le lit, c'est ce dans quoi on sue, ce dans quoi on jouit, ce dans quoi on se transforme. Pour moi, le lit a quand même une... C'est un espace de métamorphose quand même assez fou, quoi. C'est l'espace quasi, en fait, guerrier. Pour moi, il y a un espace du désir, du théâtre, du jeu, plus ou moins violent, enfin... je trouve ça très intéressant. La figure du lit dans l'histoire de l'art, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Qu'on retrouve chez Lucian Freud, le peintre, chez Jean Rustin, qu'on peut retrouver chez Bonnard ou Fragonard. Ouais, pour moi, c'est assez fascinant, l'histoire du lit. Et donc, le lit revient souvent. Puis, il y a cette position d'offrande. Finalement, le corps devient comme offert. Ça devient quasi un autel, en fait, hein. On est dans un espace quasi de sacrifice. Ça devient la table sacrificielle.
Utiliser des projecteurs pour les prises de vue.
Projecteur, qu'est-ce que t'appelles projecteur ?
De lumière.
Ouais, c'est un flash.
Ouais.
C'est souvent
c'est un flash.
C'est un flash, soit qui peut être extrêmement dur,
ouais.
Comme ici. Alors, au passage, je suis vraiment pas un bon technicien. Donc, je suis pas quelqu'un qui aime la technique photographique. Je trouve ça pas ennuyeux, mais c'est simplement que je pense que ça ne m'intéresse pas. Et donc, souvent, c'est des choses... C'est pas que je vais retenir l'image que je n'attendais pas, parce que parfois, je sais qu'une image va exister. Mais souvent, je suis surpris par ce que fait l'appareil. Et je suis content de ce que ça produit. Je pense que ça, c'est une porte que je laisse toujours entrouverte. C'est cette possibilité d'être étonné par le surgissement d'une erreur, d'un accident. Ça, c'est des choses qui m'intéressent.
Je pose la question parce que, comme dans la série précédente,
ouais.
Je trouve qu'il y a comme quelque chose de rond à l'intérieur du carré de l'image, comme si voilà, il y avait quelque chose de, ouais, de lumière comme ça au centre, et qu'après, ça partait dans le flou et dans le noir autour. Ouais. Et que pourtant, ça restait dans un carré, mais...
Ouais, ouais. Après, physiquement, hein, optiquement, puisque l'objectif est rond, il y a forcément une perte et de lumière et de netteté sur les bords, alors qu'il est rattrapé évidemment par les très bons appareils photo. Mais c'est vrai en tout cas que moi je retouche les images d'un point de vue de lumière, de me dire tiens, j'ai envie que le regard circule là, j'ai envie qu'il aille là. Donc c'est vrai que effectivement la plupart du temps, la chose au centre est quand même celle qui retient le regard. Enfin, notre regard circule quand même. Enfin, on a une lecture. Hein. Souvent, la lecture européenne, c'est en haut à gauche, en bas à droite. Hein. Et en fait, notre regard lit l'image de cette manière-là. Quoi. Mais j'essaie de. Oui, c'est-à-dire que tu parles par exemple là du corps, et puis que finalement, il a l'air d'émaner, c'est ça ?
Oui, et même dans la première série, les photos qu'on a vues. C'était vraiment une idée de quelque chose de rond à chaque fois.
Comme s'il y avait un vignettage.
voilà, par exemple, là, le chat, c'est sombre en ouais. haut, comme ça, ça fait quelque chose d'arrondi et vraiment que, comme un faisceau.
Ah, ouais, quelque ouais. chose. Intéressant.
Et sur la deuxième série, c'était le même type d'appareil avec deux objectifs ?
Non, c'est un Mamiya, donc c'est un appareil moyen format aussi, donc c'est une pellicule quand même assez grande. Ce qui fait que, par exemple, cette image, je l'ai déjà tirée en 3,50 m de haut. C'est hyper impressionnant parce qu'en fait, la main devient comme ça. Et en fait, ça permet en fait, l'enregistrement de données. Là, on ne le voit pas, évidemment, mais tous les plis, les boutons, les poils, les trucs, enfin, ça devient... Moi, j'adore jouer sur l'échelle aussi, vous le verrez aussi dans la série suivante. Mais c'est comment, à un moment, une image nous amène, nous, à replacer notre place de spectateur et à nous amener vers une lecture tout à fait distordue du réel. Mais ça peut être très grand comme ça peut être très petit. En fait, pour moi, une petite image nous amène en fait, à nous rapprocher du tirage, à faire corps avec lui, à modifier notre rapport en fait, aux choses. Mais ça, c'est la photographie, je trouve, ou la peinture, mais la photographie spécifiquement, du fait de cette possibilité de penser, après l'avoir faite, à la taille qu'elle occupe. Et pour moi, un centimètre joue dans un livre, dans un accrochage. Tout ça joue de l'ordre de la perception. Encore une fois, c'est de l'ordre de la perception et du lieu, du rapport, du corps. Pour moi, c'est très physique. Tout est très physique, en fait, en permanence.
Dans les photos précédentes, avec les manières d'être anonyme, est-ce que c'est un dialogue, tu leur proposes des objets pour être anonyme, ou c'est eux qui disent bah, moi je viens avec ça,
oui,
je me mets comme ça avec ça, et c'est comme ça que j'ai envie d'être photographié.
C'était une condition. La condition, c'était qu'ils amènent leur propre masque. En fait, j'ai compris par après en fait, qu'il y avait une possibilité là de laisser une place à aussi l'expression d'une envie justement de cette limite d'anonymat, de reconnaissance ou non. Pour moi, c'était très important de laisser cette place au choix. Parce qu'il y a des personnes, alors je ne montre pas toute la série, mais il y a des personnes qui jouent vraiment, qui ont juste un loup, quoi. Et je pense que c'est une envie aussi à un moment. Et de... Oui, une envie de se dévoiler plus. Il y en a qui vraiment choisissaient de rajouter sur le masque des torchons pour éviter qu'on le voie, ou il y en a qui mettaient des pansements pour éviter qu'on reconnaisse leur tatouage. Enfin, il y a plein de manières, ou qui justement disaient tu ne me cadres pas la jambe parce que j'ai trop une marque physique. Mais je pense que là, on touche au mystère en fait de la photographie, puisque je pense que ces personnes qui vivent un instant, j'ai envie de dire de transfiguration, je disais de libération, se mettent, se placent, je vais passer cette image, elle est trop dure, pardon, je voyais comme ça, se placent, et je pense que c'est inconscient, hein, mais on partageait communément. On était au bord d'un mystère, au bord peut-être d'une vérité, au bord d'une texture existentielle qui était encore une fois à la limite. Et je pense que eux-mêmes ont perçu que la photographie pouvait peut-être symboliquement éterniser cet instant de libération, d'intimité, de dévoilement. En fait. Quand on dit, par exemple, que les peuples, par exemple, chez les musulmans, la question de l'image est très délicate, parce qu'il y a cette croyance que la photographie capture, garderait une partie de l'âme, je me dis, en fait, que je peux comprendre. Enfin, c'est pas anodin d'être pris en photo, c'est pas anodin, une image. Et que peut-être le rôle du photographe ou le rôle du créateur d'image, c'est de protéger cette âme qui est conservée. Et je pense que eux, très inconsciemment, se sont dit que quelque chose d'eux ou quelque chose de cet état de grande pureté, ce que j'appellerais, ou de grand courage, peu importe, était quelque part et avec moi, et que j'allais peut-être en prendre soin, conserver ça. Oui.
Du coup, la mise en scène, comme on a sur cette photo, elle vient de manière instinctive par la suite avec la personne qui vient dans la chambre.
ça donne quelque chose d'inattendu, comme par exemple les traces au sol sur la banquette.
Complètement. Oui, il avait pris, il revenait, il était en transit, il avait une valise à roulettes, il a traîné cette valise, ses traces se sont marquées, ses chaussures là-bas aussi, cet oreiller, tu vois, en équilibre comme ça, qui moi me fait penser en fait à toutes ces choses qui tombent, à cette chair aussi qui tombe, parce que moi je suis persuadé que ce sont nos corps en fait. Pour moi, c'est pas ces corps, on s'en tient à distance parce que je pense qu'en fait ils nous montrent, ils nous dévoilent tous ces corps sculptés, trucs, mais c'est pas tenable en fait dans la représentation qu'on se fait de nous. C'est juste pas tenable. C'est des ambitions qui sont surhumaines. Et donc, pour moi, ça, c'est les corps de tous les jours. C'est les corps de tout le monde.
Ça devient beau, justement.
Exactement. Mais c'est là où, finalement, encore une fois, cette question de la limite et de la transfiguration, de la sublimation, pour moi, est très importante. C'est d'aller au-delà de ce qu'on... Vous verrez que parfois, c'est important dans les images qui viendront dans le prochain sujet. Mais c'est cette... Pour moi, c'est cette nécessité de remettre en jeu un regard. Pour moi, c'est capital à un moment de se poster non pas face à un corps, mais face à une image d'un corps.
La photo se faisait lors de la première rencontre physique.
Il n'y avait qu'une seule rencontre.
Il n'y a qu'une seule rencontre,
ouais,
à chaque fois.
Ouais. Sauf avec certaines personnes dans le film, dans le court-métrage, où il y a eu plusieurs rencontres. Et quasi, pas une scénographie, mais quasi un scénario, quoi. Mets-toi là, mais dans les mots, rien n'est préparé. Donc il n'y a pas de dialogue.
Le film, pourquoi l'avoir intégré dans l'exposition des photos ?
De la sève, du battement de cœur, pour moi, c'est intransigeant. Ce travail est intransigeant. C'est d'une frontalité... quasi impardonnable, tu vois ce que je veux dire. Et donc le film venait amener sans doute quelque chose d'un peu plus baroque, sans doute, de la musique. Donc, et en plus, c'est un film qui est vraiment conçu vraiment pour une installation sonore, parce qu'il est mixé en 5.1, donc comment on va appeler ça, en surround. Donc c'est en fait une captation immersive. Donc il y a des choses qui viennent de devant, de derrière. On sent qu'il y a des déplacements. Et en fait, le film amène une spatialité que l'image n'amenait pas. Parce que quand c'est présenté par exemple dans un cinéma, on m'entend parfois parler derrière alors que le modèle parle devant. Et donc, il y a cette volonté à un moment de remettre, d'amener le spectateur au milieu de cette relation qui est en fait c'est la troisième personne. La troisième personne, c'est le regardeur. Et finalement, c'est la photographie. La troisième personne est la photographie qui émerge, et donc celle qui attend d'être regardée par qui ? Par vous.
J'ai une autre question par rapport à l'hôtel de passe.
Ouais.
Le choix de l'hôtel de passe par rapport à un autre hôtel, est-ce que c'est justement ce côté un peu cru que tu recherches ?
Alors, indirectement, c'est venu. Mais c'est surtout en fait que je peux louer cet hôtel pour une ou deux heures,
ouais,
et que ça coûte pas cher, que ça coûte 20 ou 30 balles pour une ou deux heures. Mais effectivement, on est d'accord.
Ça change l'ambiance, finalement.
Ouais. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça, on est d'accord que voilà, c'est le classique hôtel de passe. Et puis le miroir, parce que vous voyez que c'est en fait c'est le reflet. Le lit commence là-bas en fait, hein, et c'est l'image du corps sur le lit, hein, déjà. Donc c'est une image d'une image. Là, sincèrement, ça pourrait être un hôtel assez classique. Là, j'avoue que c'est... Moi, c'est... enfin, ouais, cette image, ouais, il faudrait que je me penche dessus, quand même. Je pense que ce qui est troublant dans cette image, c'est l'absence de pied et de tête, ce qui le rend, en fait, infini. C'est un corps infini, étiré. C'est vraiment cette personne, hein, qui a voulu se mettre au sol, donc pas sur le lit, mais au sol. Il y a une volonté... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'humiliation, mais au sens premier, d'humus, la terre. D'humilité, humiliation, tout ça pour moi, c'est des choses qui sont très proches. J'adore le petit repli de couverture là dans le lit, ce bleu. Alors, quand c'est tiré, je parle bien de l'image tirée, imprimée, on sent que c'est un velours de mauvaise qualité. Enfin, il y a tout ce plaisir de la texture de ces lieux un peu usés comme ça.
En même temps, c'est une image christique. Hein, parce que
oui. C'est un gisant.
Voilà, un gisant, mais moi je vois aussi.
Oui, tout à fait.
Il y a il est décharné, mais il y a peut-être une idée de meurtre, mais il y a aussi peut-être quelque chose du côté des meurtres de masse, mais le côté décharné, le côté, donc il y a tout un tas d'échos, je pense, sur les
concentrationnel.
Pas seulement difficile parce qu'il y a un sexe au milieu, mais parce que les échos derrière sont très nombreux et lointains, vers des choses qui sont insupportables, je pense.
Et ça me fait tout de suite penser, après c'est des peintres dans lesquels je me reconnais, mais Francis Bacon qui travaille souvent avec la figure du corps mou, dur, c'est toujours Francis Bacon déploie dans sa peinture justement tout un vocabulaire, une dialectique entre ce qui pourrait être organique, donc organique, non organique, donc plutôt construit, une peinture avec des formes rondes, des architectures ou des droites raides. Et cette image du lit qui est ultra présente, le lit qui devient une arène, qui devient un cirque, qui devient en fait un endroit de lutte. C'est, par exemple, la corrida, ça l'a fasciné, mais qui ramène en fait au cercle du cirque, hein, là où se place le fantasme. Et ça, je trouve que c'est des questions ultra intéressantes, quoi. Et qui ramène à ces questions du lit, de l'espace, de la chambre. Oui. Toute la série est sur Internet, on pourrait aller passer une bonne journée sur le...
Mais du coup, en fait, là, tu leur offres un espace incroyable d'expression.
Ah, ben bien sûr.
C'est complètement acteur, c'est assez dingue, ça n'existe nulle part, je pense. Mm-hmm. Mais du coup, quel est leur rapport à cette photo à la fin? C'est quoi le lien avec le résultat? Est-ce qu'ils ont envie de les voir?
Alors,
ou est-ce que finalement, c'est juste cet instant qui compte?
Ben, il y en a très peu qui ont voulu voir leurs images.
Ouais,
il y en a très peu.
Lâcher les...
Tout à fait. En fait, il y a le texte qui accompagne le travail, enfin le livre. Il y a un moment, une phrase que j'ai trouvée très juste, qui est ce que vous venez, ce que, en fait, c'est l'autrice adresse une lettre à ces hommes. Et elle dit à un moment, ce que vous veniez chercher dans ces chambres, c'est l'expérience de l'image. Et je pense que c'est très juste. C'est pas n'importe quelle expérience, c'est l'expérience de soi avec l'autre qui photographie. Et je pense que ça, c'est profondément vertigineux, quoi.
C'est l'expérience de l'image sans l'image, c'est-à-dire de la fabrique de l'image.
De la fabrique, exactement.
Et de la fabrique depuis le sujet photographié.
Tout à fait.
C'est vrai que quand on est pris en photo, on a forcément la sensation que il y a une mise à nu, c'est sûr. Mais alors après, je sais pas dans quelle mesure, mais chaque fois qu'on est pris en photo, on a le sentiment que quelque chose nous échappe de nous-mêmes. Et en fait, là, c'est pousser ça à l'extrême en le disant, je vais être photographié parce que la photographie, c'est se mettre à nu. Eh ben, je vais le faire. Je le fais vraiment.
Tout à fait, ouais.
Il y a aussi une volonté de contrôle en même temps. Je crois que ce qui est fort là, c'est qu'on a à la fois cet abandon presque total et cette volonté de contrôle, parce que la préoccupation de l'image qui est donnée, elle est très forte. Pas seulement sur la question de la reconnaissabilité, mais il y a une préoccupation. Et donc là, je porte que la tension, elle est maximale entre ces deux choses qui se produisent quand on est pris en photo. À la fois cet abandon ou le don de ce qui nous échappe, et cette volonté de contrôle qui est rarement absente quand même quand on se donne un appareil photo, quoi. Là, on a vraiment cette tension.
Après, c'est vrai qu'il y a cette rencontre aussi avec le constructeur de l'image. C'est-à-dire que quand je prends cette image-là, je pense que j'aurais pu prendre bien d'autres images qui mettent et ce corps en évidence et donnent sans doute un plus grand hédonisme du corps, quoi. Mais là, en plaçant ce rideau, on est dans quelque chose de l'ordre du funéraire, en fait. Mais et donc c'est là où finalement se rencontre et le corps et ce que donne le corps et aussi la volonté à un moment, encore une fois comme le sujet précédent, de tordre au maximum le réel pour l'amener ailleurs que ce qu'il me donne de prime abord, quoi. Dis-moi.
On se dit aussi que le visage n'est pas le corps, finalement.
Non,
c'est autre chose.
Ouais, bien sûr. Je voulais dire encore quelque chose en restant sur cette image. C'était quoi?
Moi, je pense aussi à toute la réflexion de Lélina sur le visage, qui est une banalité, mais là, il y a une. On
cache le visage. Et le visage, c'est ce qui fait humain aussi.
Oui.
Donc on voit bien qu'on joue, ben, pour moi aussi, entre l'humanité et quelque chose qui serait de l'ordre presque de... j'allais dire, ou de l'acteur, ou du clown, ou de, voilà, de ce qui va transfigurer le corps et qui fait que c'est un humain, mais est-ce que c'est moi, possiblement ? C'est moi et c'est pas moi. Moi, j'ai, ça me fait penser à la première photographie avec le bas, là. Lévinas dit ceci qui m'a toujours beaucoup marqué. Que dit le visage ? Que me dit un visage ? Il me dit ne me tue pas. Enfin, pour rien, si quand on est dans des pays ou des régions qui condamnent la mort, on cache le visage, parce que le visage dit tu me tues, donc tu te tues. Et donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a cette question aussi du visage. Est-ce que le visage, effectivement, fait partie du corps et dans le prolongement du corps, ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est ce qui marque le fait qu'il y a une relation ou pas entre le photographe et le photographié ? Qu'est-ce qu'il met à distance ?
Il y a la volonté de montrer une vérité, et en fait, pour montrer cette vérité, eh ben, on se masque. C'est vraiment étrange comme démarche. Et c'est vrai que c'est ça.
On va retrouver ça dans le travail suivant.
Oui, on se cache pour montrer.
Et donc, encore une fois, ici, quand je parlais de protocole, d'espace, d'un espace, mais aussi d'un espace-temps qui est délimité en fait. Par le temps de location, hein. Au bout de 2 heures, il y a quelqu'un qui frappe à la porte en disant « Vous avez terminé ?» Voilà. C'était toujours très... Enfin, moi, j'ai adoré, mais je me suis aussi détruit, hein, dans ce travail. Enfin, j'étais encore... Enfin, j'étais jeune, et je pense que j'ai joué un rôle aussi qui outrepassait celui du photographe, de recevoir en fait, des témoignages, de recevoir des vies qui étaient parfois mal vécues, non vécues, qui étaient tristes. Et donc je pense que enfin, ça m'a un peu submergé. Quoi. Et encore une fois, là, on revient dans le mythe d'Orphée et Eurydice. J'ai rien vu pendant, j'ai tout vu après. Et ça, c'est une grosse claque. Ouais, c'était très compliqué. Mais ici aussi, il y a pour moi, comme dans le travail précédent, je reviendrai souvent avec cette... Enfin, la question des mythes, moi, elle me parle beaucoup parce qu'elle dit sans dire, ou elle dit autrement, ou elle dit plus... Je trouve ça intéressant, le mythe, d'autant en fait qu'on remarque que ça vient du grec mouein, qui veut dire le silence, se taire, et qu'en fait le mythe serait donc l'histoire de ce devant quoi nous gardons le silence. Et donc finalement le mythe prend un chemin de traverse pour raconter ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, en fait.
Mais le mot mot vient de la même racine. Le mot mot, c'est le silence.
C'est incroyable.
Et je remarque que dans toutes ces photos, il y a une importance considérable de la main, de la place de la main, comme si c'était ce qui faisait le lien entre le visage caché et le corps exposé. Et des mains, pour le coup, très vivantes, c'est ce qui m'avait marqué aussi sur la photographie de l'homme allongé, là, qui est très dure, mais sa main est vivante, alors que le reste du corps a l'air d'être un corps
Comme
celle-là. Là. Même derrière, on voit qu'elle est comme ça, que le poing est serré.
Mais il y a... En fait, la chambre devient un espace pour moi, et c'est très important. C'est que dans cette très grande contrainte, la chambre devient un espace de métamorphose. Et donc, la personne n'est pas ni moi ni lui, sommes le même en avant et après. Et donc, c'est vrai que dans le film, il y a ce moment où les rideaux sont fermés, les rideaux sont ouverts. Et pour moi, c'est vraiment... C'est l'espace, en fait, de la... Quasi de la maturation... Et on retrouve en fait cette question en fait de l'avant-après dans tous les rites, les rites à mystère, chez Osiris, chez Orphée, dans le Christ par exemple, avec cette question en fait de la mort et de la résurrection. C'est vraiment en fait un espace de coulisses où quelque chose soit se reconstruit, soit se réassemble, se réunit, ou en tout cas il y a une métamorphose qui se produit. Il y a un temps de silence avant la transformation finale. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, que ces personnes ont vécu ça, ce temps, entre guillemets, du tombeau. Donc, ce temps de la transformation. Et en ça, c'est ça qui me fait passer, en fait, à...
Le miroir de sorcière, c'est celui qui l'a amené,
Non, il est dans la chambre. Hein. Et alors, oui, après, il y a des vrais plaisirs esthétiques qu'on n'arrive pas à contrôler. Bon, je viens de Belgique, donc après, il y a toute la tradition picturale des primitifs flamands. Vous connaissez peut-être le mariage des époux Arnolfini, qui sont ces époux qui se tiennent la main dans une chambre. Et au bout de la perspective, il y a justement un miroir convexe ou concave, je me trompe toujours, qui montre la scène par l'inverse. Et donc finalement, donc il y a ce type de miroir, et donc finalement on voit le peintre à l'œuvre, un peu comme finalement aussi, on trouve ça dans les Ménines, tous ces miroirs qui finalement donnent, on se rend compte que finalement dans les Ménines, que nous sommes à la place des personnes peintes, enfin c'est complètement, bref. Et donc là, ce qui est fou, c'est qu'on peut revoir le personnage dans un miroir qui est lui-même en face de lui, quoi. Enfin, tout ça n'est pas voulu et découvert, évidemment, à la prise de vue, mais c'est ce que permet parfois des éléments comme ça. Après, ce que j'aime dans ce miroir, c'est l'aspect solaire, auréolé. Il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre de la transformation, de la, quelque chose qui est en fait quasi triomphant, glorieux, enfin, quelque chose, quoi.
Même par rapport à ce que vous voulez dire, ce que tu viens de dire, mais entre les rideaux qui s'ouvrent, qui se ferment, cet espace-temps qui est bah, peu, voilà, ils se sont permis.
Ouais.
Enfin, avec en plus, bon, c'est le contexte de l'hôtel de passe et tout, mais enfin ça, par exemple, un homme et une femme ou des hommes, enfin des deux personnes un coup qui se retrouvent comme ça pour prendre rendez-vous dans un hôtel pour s'envoyer en l'air, c'est pareil, on ferme, on ouvre, il se passe ça, ou aller une rencontre avec une prostituée, enfin, c'est vraiment, il y a tout ça, vraiment beaucoup.
Ah ouais, mais ça construit des temps. Pour moi, en fait, la question des temps, des choses qui scandent, qui rythment, pour moi, en fait, on a l'impression d'existence comme ça. Et c'est pour ça que je vais en venir au travail suivant, parce que finalement, il y a cette existence qui coule, mais en fait, elle est très scandée. Et cette scansion est déterminée par ce que j'appellerais des passages. Et en fait, le passage de la fermeture du rideau à son ouverture, pour moi, c'est un passage. Et ça, tout cet épisode, en fait, dans l'obscurité d'une chambre, dans aussi l'aspect sonore d'une chambre, c'est beaucoup plus calfeutré. Tout ça, pour moi, c'est de l'ordre du renouvellement du corps, hein, comme un sommeil, en fait. C'est une mise en veille. Pour moi, il y a vraiment...
Il y a aussi une métaphore de la photographie, hein, dans ce moment de fermeture-ouverture, dans cette tranche de temps.
Oui, exactement.